Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal présenté par Lévin Mbouinga.
Bonjour et merci à vous de choisir Radio Kapi pour vous informer. Voici les titres de ce journal. Fort Gnassingbé, nouveau médiateur dans le processus de paix dans l'est de la RDC. Le président de la République togolaise a été officiellement désigné samedi par l'Union africaine. Mais quels sont les défis qui attendent le nouveau venu dans la crise de l'est de la RDC? Réponse dans un court instant. Et puis la campagne de vaccination contre la polio bat de l'aile dans le Tanganyika. Plus de 6000 enfants de 0 à 59 mois ne sont pas encore vaccinés dans les zones de santé de Kisongo et de Nyemba à Kalemie. Motif, les relais communautaires en charge de la vaccination exigent d'abord les arriérés de prime de 3 campagnes de vaccination précédentes. Révérend pasteur Eric Senga, secrétaire général et porte-parole de l'Église du Christ au Congo, est notre invité. Dans une interview exclusive accordée à Radio Kapi, Eric Senga va nous dresser le bilan de toutes les missions effectuées par les princes de l'Église protestante et catholique en RDC et en dehors du pays. À suivre absolument vers la fin de ce journal. Je le disais en titre, Fort Gnassingbé, nouveau médiateur dans le processus de paix dans l'est de la RDC. L'Union africaine a donc officiellement désigné le président de la République togolaise en remplacement de son homologue angolais João Lourenço. Depuis samedi, cette nomination a été adoptée par procédure de silence samedi 12 avril 2025 et entre cessez-le-feu non respecté et poursuite des combats aggravant la crise humanitaire dans l'est du pays. Quels sont les défis qui attendent le nouveau médiateur? Élément de réponse dans ce reportage signé Martial Papimukeba.
La mission confiée à Fort Gnassingbé s'annonce délicate. Premier défi, restaurer la confiance entre les partis. Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles de l'AFC M23, ce que le Rwanda dément. Les précédentes médiations ont échoué à cause de cette méfiance, aggravée par des combats persistants malgré les cessez-les-faits. Deuxième défi, harmoniser les initiatives existantes. Les processus de Nairobi, pilotés par l'EAC et de Luanda sous l'égide de l'Angola, n'ont pas permis de bâtir un cadre unifié. Fort Gnassingbé devra proposer une feuille de route cohérente intégrant les dimensions sécuritaires, politiques et humanitaires. Autre enjeu, coordonner ses efforts avec la médiation qatari en cours qui vise une négociation directe entre le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC M23. Il s'agira d'éviter les chevauchements et renforcer la complémentarité entre les démarches diplomatiques. En fait, la réussite du nouveau médiateur dépendra aussi de la volonté des différentes parties à ces conflits qui n'a que trop duré. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Entre-temps, les forces armées de la République démocratique du Congo réaffirment leur attachement aux engagements souscrits par la haute hiérarchie du pays pour le retour d'une paix définitive dans l'est du pays et dans la sous-région. Elle rappelle qu'elle demeure vigilante et respectueuse des droits de guerre. Dans un communiqué transmis à Radio Kapi hier dimanche, l'état-major de l'armée congolaise réfute les accusations du mouvement rebelle AFC M23 soutenu par le Rwanda selon lesquelles les FRDC ont monté la nuit du 11 au 12 avril une attaque contre la ville de Goma. D'après son porte-parole, le général-major Sylvain Ekenge, le communiqué de ce mouvement rebelle que Kinshasa qualifie de terroriste manque de fondement et de logique. Tout de suite, le général-major Sylvain Ekenge dans cet extrait que nous propose Billy Ivan Lutumba.
Les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à donner des précisions objectivement vérifiables suivantes à l'opinion nationale et internationale. Au nord de la province, leur première position se trouve à plus de 300 km de la ville de Goma, dans le territoire des Lubero, au grand nord de cette province. À l'ouest de Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en pleine défensive dans le territoire de Walikale. Au sud de Goma, les premières positions des FARDC sont à des centaines de kilomètres de la ville de Bukavu, dans les territoires de Mwenga, Uvira, Fizi et Shabunda. Le communiqué de l'AFC M23, taillé de toutes pièces, est en réalité un scénario sciemment monté non seulement pour camoufler, justifier les tueries quotidiennes des civils dans la ville de Goma, mais aussi et surtout pour manipuler l'opinion et également satisfaire leurs appétits criminels. C'est une manœuvre dilatoire concoctée pour tenter de faire capoter toutes les initiatives de paix en cours.
Autre précision, c'est celle de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. La MONUSCO dément en fait avec la plus grande fermeté les allégations gravissimes contenues dans une prétendue alerte circulant actuellement, faisant état des préparatifs d'une attaque imminente sur la ville de Goma qui serait orchestrée depuis l'une de ses bases, notamment celle de l'aéroport de Goma. Dans un communiqué publié hier 13 avril, la MONUSCO tient à préciser qu'aucune activité de cette nature n'a jamais eu lieu ni ne saurait être tolérée dans ces installations. Ces accusations sont non seulement fausses, mais également extrêmement dangereuses dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions sécuritaires anciennes. La mission dénonce ces rumeurs malveillantes qui visent à ternir son image, à semer la confusion et à mettre en péril la sécurité de ses personnels et des civils qu'elle est mandatée à protéger. La MONUSCO rappelle qu'elle agit en stricte conformité avec le mandat qui lui est confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mandat qui comprend entre autres la protection des civils, l'appui au FRDC ainsi que la stabilisation des zones en conflit. La présence des FRDC dans certaines bases de la MONUSCO s'inscrit dans ce cadre notamment pour des raisons de protection temporaire en situation d'urgence, comme cela est prévu par le droit international humanitaire et les procédures de la mission, souligne-t-elle. La MONUSCO invite enfin les acteurs politiques et les leaders communautaires à faire preuve de responsabilité dans leur communication, à s'abstenir de relayer des informations non vérifiées et à travailler de manière constructive pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Et pour cette interrogation, un nouveau mode opératoire des rebelles des EDF dans certaines localités de Lubero serait-il en cours? En tout cas, l'alerte est lancée par la nouvelle société civile du secteur de Bapéré, dans le Nord Kivu. Ces rebelles n'attaquent plus pour s'enfuir, mais plutôt pour s'installer dans ces localités du Nord Kivu où ils utilisent les populations locales pour l'exploitation illégale d'or, affirme cette structure citoyenne. Une information confirmée aussi par l'administrateur du territoire de Lubero qui appelle la population à ne pas coaliser avec ces rebelles. Guylaine Kassassia nous en dit plus dans ce reportage.
Selon la nouvelle société civile du secteur de Bapéré, il y a quelques jours, les rebelles des ADF auraient uni les habitants de certaines localités d'écoupement des Barége, Boudoudia et Bapaitumba, en majorité orpailleurs. C'était pour leur demander de regagner leurs habitations avec la promesse qu'ils ne seront plus attaqués pour être tués. Mais en contrepartie, ces populations doivent chercher de l'or au profit de ces rebelles des ADF qui leur ont même fixé le prix d'un gramme à 45 dollars américains. L'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa condamne cette pratique et appelle la population à la vigilance.
Il y a la présence de terroristes EDF qui ont changé pratiquement leur mode opératoire. Ces terroristes avaient un mode opératoire d'itinérance. Présentement, ils privilégient maintenant l'occupation durable. À la population de ne pas coaliser avec les terroristes EDF et de ne jamais avoir confiance à ces derniers. Et pour nos forces de défense et de sécurité, je suis en train de demander aux commandants qui sont commis à ces opérations de neutraliser ces terroristes partout où ils sont.
Beni Higuline Kassassia, Radio Okapi.
Non loin de Lubero, cette fois à Butembo, l'actualité c'est ce message de l'évêque du diocèse catholique de Butembo-Beni pour apporter du baume au cœur de la population de l'est de la RDC. Il appelle ce peuple à garder espoir malgré les difficultés du moment. Monseigneur Sikouli Paluku Melchisedek s'est exprimé hier dimanche à Butembo à l'occasion de la messe des rameaux, journée qui marque le début de la semaine sainte chez les catholiques. Pour ce prélat catholique, la dégradation de la situation socio-économique et sécuritaire du moment ne doit pas plonger la population dans le désespoir. Monseigneur Sikouli, dans cet extrait choisi par Guylaine Kassassia.
Nous ne devons jamais perdre la foi Quoi qu'il nous arrive, c'est dans la nuit qu'il faut montrer que l'on croit à la lumière. Nous ne devons jamais nous décourager, même quand tout semble sombre et noir dans nos vies. Comme actuellement, à l'est de notre pays, où tout semble noir, avec le risque réel de faire tomber dans le désespoir. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Qu'on pense aux victimes de la guerre de Kivu, c'est pourquoi, face à la crise sociopolitique, sécuritaire, financière et spirituelle de notre temps, l'Église nous appelle à être des témoins de l'espérance.
Santé, avec la vaccination contre la polio qui traîne le pas dans le Tanganyika, tenez, plus de 6000 enfants de 0 à 59 mois ne sont pas encore vaccinés. Cela se passe dans les zones de santé de Kisongo et de Nyimba dans le territoire de Kalemie. À la base, la grève décrétée par les relais communautaires en charge de la vaccination indique des sources locales. Depuis jeudi dernier, jour du lancement de la campagne, ces grévistes réclament les arriérés de primes de 3 campagnes de vaccination précédentes. D'autres détails avec Paulin Munanga.
Cette première phase de la campagne de vaccination de l'année 2025 contre la polio devrait débuter jeudi dernier sur toute l'étendue du territoire de Kalemie. Mais cela n'est pas le cas dans plusieurs aires de santé. Les relais communautaires exigent le paiement des campagnes précédentes avant de se mettre au travail. L'infirmier titulaire de l'aire de santé de Kisongo précise que c'est une situation générale qui concerne toutes les aires de santé du territoire de Kalemie qui sont dans les milieux ruraux. D'après lui, 2 campagnes ne sont pas encore payées et une campagne est payée partiellement. Contactés, les superviseurs des soins de santé primaire dans la zone de santé de Nyemba indiquent qu'il y a un problème qui se pose pour le paiement de ces relais communautaires. Yves Amissi souligne que le paiement s'est fait par Mobile Money, mais la plupart des relais communautaires ont des numéros qui ne passent pas et d'autres n'ont pas de compte pour les transferts d'argent par téléphonie mobile, ce qui fait que le partenaire n'a pas encore payé ces personnes. Le superviseur des soins de santé primaire dans la zone de santé de Nyemba rassure que le processus de leur paiement est en cours.
Un autre point qui dérange énormément, cette fois au Kasaï-Oriental, c'est le travail des enfants. Un phénomène alarmant qui prend de l'ampleur à Mbujimayi. Ils sont en effet des centaines d'enfants bien trop jeunes pour travailler et sont contraints de s'adonner à des activités économiques pour assurer leur survie. La raison, leur inaccessibilité aux écoles publiques et le manque de moyens pour les scolariser dans les écoles privées. Sarah Soumbela et Pascal Tinamoula ont rencontré ces visages d'une enfance volée, il faut le dire. Suivez leur reportage.
Les marchés centrales de Bakwadianga, à Mbujimayi, offrent un spectacle poignant. Des enfants, parfois à peine sortis de la petite enfance, s'activent dans des petits commerces de fortune. Ici, on vend des sacs plastiques aux clients pressés. Là, des beignets encore chauds, des œufs ou quelques morceaux de fromage. Leur motivation derrière cette activité précoce, gagner de quoi payer leur scolarité dans des écoles privées, les établissements publics étant devenus inaccessibles en raison de l'afflux massif des élèves liés à la gratuité de l'enseignement.
Je vais au marché pour chercher l'argent.
Tu fais quoi pour avoir l'argent?
Je vais payer à l'école.
Un sac chez toi coûte combien?
Ça coûte 350.
Face à cette crise d'accès à l'éducation, la division des affaires sociales du Kasaï Oriental a mis en place un programme de rattrapage scolaire. François Mukendi, chef de division, explique la nature de ces projets.
L'enseignement des rattrapages est organisé en 3 années. Après les 3 ans là, les PST les admet au TENAFEP et ils ont les certificats, ils peuvent continuer les cycles secondaires.
Mbujimayi, une ville de près de 3 millions d'habitants, est confrontée à des défis socio-économiques majeurs, exacerbés par l'enclavement et les manques d'infrastructures routières de qualité. Dans ces contextes difficiles, parents et enfants sont contraints de lutter au quotidien pour leur survie. Pascal Tinamoula, de retour de Mbujimayi, pour Radio Kapi.
Plus à l'ouest de la RDC, c'est une nouvelle qui donne le sourire aux administrateurs et leurs adjoints dans 10 territoires du Congo central qui fait l'actualité. Et les chefs de village de cette province sont aussi concernés par cette bonne nouvelle. Tous ont désormais droit à une prime mensuelle. Une opération de paye est déjà effective pour ce mois d'avril. Opération lancée mercredi pour toute la province à partir d'une Sanza centre dans le territoire de Sekebanza. D'après le gouverneur Grace Bilolo, cette prime s'inscrit dans le cadre du programme quinquennal de relance du développement durable du Congo central.
Actualité internationale.
Au Gabon, le chef de la transition militaire qui dirige ce pays depuis le renversement d'Ali Bongo le 30 août 2023, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président du pays pour 7 ans. Il a obtenu 90,35% des voix selon les résultats globaux provisoires annoncés hier dimanche 13 avril par le ministère de l'Intérieur. Une consécration pour ce militaire de carrière formé et promu au sein du système Bongo.
L'invité.
Débutée le 4 février dernier, l'initiative du Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, SENCO-SCC, a atteint avec satisfaction ses premiers objectifs assignés selon les coordonnateurs. Les prochaines étapes vont concerner le cercle des scientifiques à travers des débats. Annonce faite par l'un des coordonnateurs du pacte, révérend pasteur Eric Senga, secrétaire général et porte-parole de l'Église du Christ au Congo. Il est l'invité de Radio Kapi. Dans une interview exclusive, il dresse le bilan de toutes les missions effectuées par les princes de l'Église protestante et catholique en RDC et en dehors du pays et parle de ce qui reste à faire. Eric Senga s'entretient ici avec Jeff Ngoy.
Bonjour pasteur Eric, quelle évaluation faites-vous du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble au terme des tractations et tournées effectuées au pays et à l'étranger?
À ce jour, nous pouvons dire que l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC dans les Grands Lacs évolue très bien. Nous avons atteint nos objectifs fixés dans les deux premières étapes, à savoir informer et partager l'initiative à un grand nombre d'acteurs internes et externes. Ça, c'était notre premier objectif, ce qui a été réalisé avec succès. Deuxièmement, c'était d'obtenir l'adhésion et l'engagement d'accompagnement de tous ces acteurs. Je rappelle ici que nous avions commencé par le chef de l'État le 4 février 2025, qui déjà, en résumé, disait que l'initiative était louable. Tous les acteurs qui ont été approchés, que ce soit internes ou externes, voire armés ou non armés, ont adhéré, ont accepté la pertinence de cette initiative. Et donc, de ce point de vue, nous pouvons dire aujourd'hui avec ferme conviction que les deux étapes qui étaient prévues jusqu'à ce jour ont atteint leur objectif avec succès.
Qui finance pour vous toutes ces missions?
Je pense que nous l'avions déjà dit par plusieurs fois. Ce serait quand même humiliant de ne pas comprendre que nos églises sont des institutions avec une notoriété nationale et internationale. Ça, un des deux, c'est pas la première fois que ces hauts fonctionnaires de ces deux institutions effectuent des déplacements. C'est presque chaque mois qu'ils ont des agendas qui permettent leur déplacement. Mais pour cette question précise, nous insistons sur le fait de dire nous-mêmes, nous avons financé nos déplacements en termes d'achat des billets. Et c'est cela notre contribution. Par contre, il a été signalé que dans certains cas de gouvernement où nous avons été invités et reçus en tant que délégation officielle, quelques mesures d'hospitalité ont été accordées, notamment le logement et les déplacements, la mobilité dans ces villes. Il s'agit des pays tels que le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, le Congo-Brazzaville, si bien qu'au Congo, on n'y a pas passé nuit, mais il y a eu tous ces avantages.
Comment conciliez-vous votre initiative avec celle de Doha au Qatar et la médiation désignée de l'Union africaine?
Ce qui se passe à Doha, nous l'espérons, ce serait une contribution aux autres initiatives. Il ne faut pas oublier que l'instance qui a compétence de conduire l'initiative jusqu'à ces jours, c'est d'abord l'Union africaine qui a la responsabilité au niveau continental. Sous l'autorité de l'Union européenne, il y a ces initiatives harmonisées de Luanda et de Nairobi. Et aujourd'hui, les animateurs ont déjà été désignés, que ce soit pour l'Union africaine, que ce soit pour la facilitation des initiatives harmonisées. Alors, la nôtre se place justement à ce niveau-là de contribution parce que toutes ces initiatives cités n'ont pas pris en compte la dimension interne. Et comme vous le savez, peut-être que beaucoup ne le savent pas, il était aussi demandé au niveau international qu'il y ait une sorte de support interne. Parce que les acteurs internes, selon l'esprit de la résolution 2773 des Nations Unies, qui beaucoup ignorent jusqu'à jusque-là, il est demandé aux acteurs du Congolais de discuter aussi entre eux. Et donc, il fallait trouver un cadre de la mise en œuvre de la résolution 2773. Donc, l'initiative vient également contribuer à ces niveaux-là pour permettre aux Congolais et Congolaises de voir dans quelle mesure ils peuvent se rapprocher.
Ne pensez-vous pas que cette initiative relève d'une compétence institutionnelle?
Mais oui, mais nous rappelons aussi que dans la coutume constitutionnelle, les dialogues ou les cadres dialogiques interviennent pour combler des vides juridiques s'il y en a, ou alors créer des cadres de confiance pour les acteurs politiques à pouvoir trouver des solutions aux crises, surtout si ces crises ont une influence sur la vie nationale ou la structure nationale. Donc c'est très important à les préciser. C'est une initiative qui vient compléter et qui reste ouverte aux contributions des autres initiatives.
Quelles sont les prochaines étapes de votre initiative et sa clôture pour démarrer effectivement le dialogue?
Les prochaines étapes du pacte social sont au niveau diplomatique, mais aussi au niveau de l'appel qui sera lancé aux scientifiques pour commencer les ateliers. Donc bientôt s'ouvrira le cercle des ateliers de réflexion, donc qui permettra aux scientifiques de venir réfléchir sur des thématiques sous la coordination du secrétariat technique de l'initiative. Mais d'autre part, nous continuons aussi avec les contacts diplomatiques et politiques. Les discussions informelles également continuent.
Merci.
Merci.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Jude Mister Bilanda, à Jacques-Yves Molima et à Mimi Kindou. Excellente journée à toutes et à tous.